France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Pénélope Lemoguen. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique, c'est Élise Leu. C'est le deuxième volet de notre série consacrée à l'opération séduction de l'Europe dans une quête de nouveaux partenaires pour compenser l'affaiblissement de sa relation avec les États-Unis. Après l'Amérique latine, hier en particulier le Mercosur, on parle aujourd'hui du traité signé fin janvier avec l'Inde, une romance stratégique.
Le monde en parle comme l'accord de tous les accords. Il offre des opportunités majeures à 1,460 milliard d'Indiens et des millions d'Européens. Il renforcera l'attractivité de l'Inde pour tous les investisseurs du monde entier.
We did it.
Nous l'avons fait.
We delivered the mother of all.
Nous avons conclu la mère de tous les accords.
We are creating a market of two.
Nous créons un marché de 2 milliards de personnes.
And this is the tale of two giants.
Et c'est l'histoire de deux géants.
The world's second and fourth
les deuxième et quatrième plus grandes économies du monde.
Two giants who choose partnership.
Deux géants qui choisissent le partenariat dans une logique véritablement gagnant-gagnant.
A strong message.
Un message fort. La coopération est la meilleure réponse aux défis mondiaux.
Un rien d'exaltation qui n'est pas loin de ressembler à un peu d'exagération. L'accord de tous les accords pour Narendra Modi, la mère de tous les accords surenchérie Ursula von der Leyen. Le tout en forçant un peu la voix, histoire d'être entendu jusqu'à Washington. Donald Trump et deux ces gens du monde habitués à prodiguer le mot « ami » tout en donnant des coups de poignard dans le dos. Alors Bruxelles et New Delhi lui font savoir qu'ils se débrouillent très bien sans lui. En fait, le traité signé le 27 janvier dernier entre les deux partenaires est en gestation depuis près de 20 ans. Il leur a fallu surmonter beaucoup de désaccords pour parvenir à ce texte qu'on ne connaît pas pour l'instant dans le détail, mais via les communiqués des deux parties. Il s'agit d'abord de la levée des droits de douane dans tout un tas de secteurs. À première vue, un accord de libre-échange en bonne et due forme, donc à ceci près qu'il concerne 2 milliards de consommateurs, comme se plaisent à le rappeler les signataires. Alors ce traité est aussi assumé comme un geste politique, comme si l'extrême droite hindouiste était une alternative à l'extrême droite états-unienne. Narendra Modi joue par ailleurs sa propre carte, une stratégie de multi-alignement. Sa proximité avec son vieux partenaire russe risque d'ailleurs de poser problème quand sera débattu au Parlement européen ce traité qui comprend aussi un pacte de défense et de sécurité. Bonjour Christophe Jaffrelot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politiste indianiste, directeur de recherche au CNRS, attaché aux séries. Vous êtes président de l'Association française de sciences politiques et de l'Association britannique d'études sud-asiatiques. Vous avez écrit L'Inde de Modi, paru chez Fayard. Bonjour Catherine Brosse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bienvenue dans ce studio. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Tours, chercheuse au laboratoire d'économie d'Orléans, le LEO, et vous êtes spécialiste de l'économie indienne. Il se trouve que justement parmi les choses que l'on sait de cet accord, il y a tout ce volet commercial et qui est déjà très important. Les baisses de droits de douane prévues sur plus de 90% des biens et services qu'échangent l'Inde et les membres de l'Union. Comment ont été choisis, Catherine Brosse, les secteurs en question et l'ampleur de la baisse ?
Alors, l'accord concerne à peu près 90% des lignes tarifaires. Donc, c'est un accord qui est vraiment tous azimuts. Donc, en fait, quasiment tous les secteurs sont touchés. À l'exception près du secteur agricole. Je pense que et l'Union européenne et l'Inde étaient d'accord pour l'exclure. Donc, ça touche à peu près tous les secteurs. Donc, les choix, après, ce qui varie, c'est si le droit de douane passe à zéro ou est juste réduit. Et ça a été choisi, évidemment, la négociation s'est faite en fonction de ce que les uns et les autres exportent, en fait.
Donc, en effet, les produits agricoles ne font pas partie de l'accord et on parlera aussi dans cette discussion de ce qui ne figure pas dans l'accord. Quant aux secteurs choisis, ils seront concernés. Alors, le secteur automobile, les droits de douane vont passer de 110 à 10%. Ils vont disparaître progressivement dans l'aviation, les machines machines-outils. Sont concernés aussi l'acier, les produits chimiques européens qui supportaient des droits de douane, je vous cite Christophe Jaffrelot, de 22% en moyenne jusque-là. Peut-être une question sur les vins et spiritueux européens que l'Inde taxait à hauteur de 150%. Ces droits de douane vont passer à 75% d'ici 10 ans et 40% ensuite. C'est curieux, Christophe Jaffrelot, dans un pays où la plupart des États restent prohibitionnistes.
Ah, pas la plupart, non. Le vin est une denrée que l'on consomme de plus en plus en Inde.
Donc ça a sauté ces barrières-là, parce que c'était le cas il n'y a pas si longtemps.
Il n'y a plus guère que le Gujarat, qui est vraiment tout à fait sec, comme on dit, hein, a dry state. Non, ce qui est plus étonnant, c'est que l'Inde s'est mise à produire beaucoup de vin. Et là, elle s'ouvre néanmoins à des importations venues d'Europe.
Pas trop non plus, donc les droits de douane vont être très progressifs et ils seront à 75% d'ici 10 ans. Quels sont les garde-fous, Catherine Brosse, qui ont été posés ici et là pour éviter en Europe le déferlement de produits indiens et vice-versa ?
Alors, il y a des quotas qui ont été mis en place, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cet accord de libre-échange, c'est qu'il n'y a pas de déferlement à proprement parler de produits indiens. Dans le sens où, en fait, si on prend un bon exemple, c'est le textile. Donc le textile indien va profiter de 0% de droits de douane. Et la pression concurrentielle, elle est déjà là, elle est déjà là de la part de la Chine. La Chine a des droits de douane à hauteur de 12%, mais est tellement compétitive qu'en fait, les produits indiens, même à 0%, arrivent à parité en termes de compétitivité avec ceux de la Chine. Donc en fait, c'est un point qui est important de bien comprendre, c'est qu'en fait, la pression concurrentielle, elle est déjà largement là, ce qui change. Et c'est ce qu'a dit en fait Ursula von der Leyen, elle a raison. La motivation principale pour l'Union européenne, c'est de diversifier, en fait. C'est pas de s'ouvrir plus à l'ailleurs, c'est de changer les sources d'ailleurs, que ça soit pas tout le temps la Chine. Et c'est exactement ça que l'accord va faire avec l'Inde. Et encore une fois, c'est pas une question de déferlante, parce que c'est la crainte beaucoup en Europe, de déferlante de produits indiens, ça c'est assez peu probable. Ça les met juste à parité avec une pression concurrentielle qu'exerce déjà la Chine, et qui permet donc la diversification des fournisseurs.
Mais vous citez le textile, il y a d'autres biens, cette fois industriels, qui en Inde sont fabriqués souvent avec des intrants chinois, très bon marché, des salaires faibles. Comment être sûr que ça ne va pas faire de tort à l'économie européenne ?
Parce que si on regarde en fait les secteurs qui sont échangés entre l'Union européenne, par exemple, et l'Inde, déjà, c'est pas du tout les mêmes, donc il y a pas vraiment de concurrence à proprement parler. Comme je le disais, la plupart de ces secteurs subissent déjà largement la concurrence chinoise. Donc en fait, c'est un effort de diversification. Et il faut pas oublier non plus l'autre côté de la médaille, qui est que pour les Européens, c'est énormément d'économies, c'est un accès à un marché qui est en croissance, qui est un des rares à être en croissance. Parce qu'en fait, la consommation finale en Inde, elle croît à peu près à 4%, ce qui est quand même, dans le contexte actuel, pas négligeable du tout.
Un marché, puisqu'on parle aujourd'hui souvent de ces États en termes de marché de près de 1,5 milliard d'habitants, donc de consommateurs, au 26 janvier 2026. Donc, en effet, l'Europe se regarde loin. Quant à l'Inde, elle sécurise peut-être davantage les choses, mais l'Europe, elle est dans une stratégie un peu plus générale.
We are not in a race against each other.
Nous ne sommes pas en concurrence les uns avec les autres, mais nous sommes dans une course contre la montre. Même dans un contexte de concurrence acharnée, nous devons unir nos forces. Et l'Europe cherchera à coopérer non seulement avec ses amis de longue date, partageant les mêmes idées, mais aussi avec tous les pays avec lesquels nous partageons des intérêts. Notre message au monde est simple. S'il y a des avantages mutuels, nous sommes prêts à nous engager avec vous. Si vous souhaitez moderniser vos industries de technologie propre, si vous souhaitez améliorer votre infrastructure numérique, l'Europe est ouverte aux affaires. À mesure que la concurrence entre les grandes puissances s'intensifie, je constate un intérêt croissant à travers le monde pour s'engager plus étroitement avec nous.
Ursula von der Leyen, il y a un peu plus de 2 semaines au forum de Davos. Catherine Brosse, est-ce que cet accord avec l'Inde a par ailleurs vocation à rendre plus équilibrée une relation commerciale qui est aujourd'hui asymétrique ?
Oui, qui est asymétrique disons, en faveur de l'Europe. Parce qu'en fait, pour les Indiens, l'Europe, c'est 2% c'est le deuxième client et le deuxième fournisseur. Donc, c'est en fait un marché qui est très important, à la fois à l'importation et à l'exportation. En revanche, pour l'Union européenne, l'Inde, c'est le dixième partenaire commercial, c'est 3% des importations. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'il y a une pression commerciale, 3% des importations, c'est pas grand chose, en fait. Donc, il y aura beaucoup d'années qui vont s'écouler avant qu'on ressente une pression concurrentielle de la part de l'Inde. Et donc, l'asymétrie commerciale en termes d'importance stratégique entre l'Inde et l'Union européenne fait qu'en fait, les deux partenaires ne cherchent pas la même chose. L'Inde cherche à sécuriser des marchés et un fournisseur, et l'Union européenne prend son ticket pour ce qu'elle estime être la prochaine puissance économique importante en Asie, en tout cas montante, et comme je le disais, avec un taux de croissance qui est vu nulle part ailleurs pour l'instant dans cette région.
Donc voilà en ce qui concerne pour l'instant le libre-échange en matière de biens, mais du côté des services, Christophe Jaffrelot, pourquoi l'Inde, par exemple, considère comme une victoire l'octroi a priori par l'Europe d'une certaine liberté de circulation au personnel compétent dans les services informatiques? C'est ce qu'on comprend des communiqués officiels. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas peur d'une fuite de ses cerveaux vers l'Europe?
Alors effectivement, ce traité est assorti d'un autre texte qui encadre en quelque sorte la mobilité des personnes.
C'est pas le traité lui-même, ça. Non,
c'est tout à fait intéressant d'avoir voulu consacrer une série de dispositions spécifiques, alors qui va avoir pour objet effectivement d'abord les ingénieurs informaticiens, dans un contexte où aux États-Unis c'est de plus en plus difficile. Et on ne peut pas regarder ce qui se passe du côté Inde d'Europe sans regarder ce qui se passe du côté Inde États-Unis. C'est une dialectique. Et d'ailleurs, tous les champs de victoire qui ont eu lieu le mois dernier entre Indiens et Européens, aujourd'hui sont déjà à requalifier suite à l'accord qui a eu lieu ce week-end entre États-Unis et Inde. On y viendra sans doute. Les visas H-1B qui permettaient aux Indiens d'être aux États-Unis comme ingénieurs informaticiens ont vu leur coût passer de 1 000 à 100 000 dollars. Les grandes entreprises du IT indien, Infosys, TCS, étaient les premières bénéficiaires de ces visas. 73% des bénéficiaires de visas H-1B l'an dernier étaient à des Indiens. Quand ça se ferme, il faut absolument trouver d'autres endroits pour que les marchés... que ces grandes entreprises, il y a Infosys, il y a TCS, il y a Wipro, il y en a toute une série qui sont basées pour la plupart à Bangalore, puissent avoir ainsi d'autres débouchés pour leur personnel et, bien sûr, pour placer leur propre produit informatique. Alors, ça, c'est, je dirais, la demande indienne. Il y a aussi une attente européenne. Il y a des pays en Europe, l'Allemagne, au premier chef,
qui a besoin d'ingénieurs.
Qui a besoin de main-d'œuvre. Et alors, on le voit du côté des ingénieurs informaticiens notamment, mais on le voit aussi déjà au niveau des étudiants. Et là, à nouveau, les vases communiquent. La baisse des étudiants indiens sur les campus américains est de 75% cette année. Il n'est plus aussi facile, loin de là, d'avoir les visas d'étudiants qu'on avait pour aller dans les grandes universités américaines. Et par contre, vous avez des augmentations du nombre d'étudiants indiens en Europe, alors en Grande-Bretagne où ils sont de retour, mais surtout en Allemagne où des dizaines de milliers d'étudiants indiens arrivent et seront les ingénieurs de demain. Donc vous avez à la fois une dimension, je dirais, push factor et pull factor avec des attentes indiennes, des besoins européens, avec une grosse hypothèque. L'immigration n'est pas du ressort de l'Union européenne. C'est pas Bruxelles qui va décider.
Ce sont les États membres.
Et là, on va voir jusqu'où est-ce qu'on est prêt à avoir des étrangers en si grand nombre à nouveau en Europe.
C'est vrai que sur les questions migratoires, les États membres de l'Union se montrent en général plus fermés. L'Inde aussi, on l'a connue plus protectionniste en général. Catherine Brosse, vous souhaitiez réagir.
Oui, alors sur deux points. Le premier sur la mobilité des personnes, il faut voir que l'Inde, c'est le troisième exportateur de services. Les services sont pas soumis à droits de douane. Ils ont des barrières non tarifaires, on appelle non tarifaires, dont font partie toutes les restrictions sur la mobilité des personnes. Et donc, en fait, pour compléter ce qui vient d'être dit, en fait, le fait de rétracter ces barrières contribue à augmenter le commerce des services qui, lui, et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, le commerce des biens, on en parle beaucoup, mais en fait, sa croissance est terminée. Sa croissance a eu lieu dans les années 2000, au plein moment de la mondialisation. Mais ce qui reprend le relais en ce moment, c'est la croissance des services. C'est la nouvelle mondialisation. Et là, l'Inde est ultra bien positionnée. Autant sur les biens, bon voilà, elle a toujours été en position relativement défavorable pour plein de raisons. Mais sur les services, elle est extrêmement performante.
Ce qui veut dire qu'elle a une croissance qui ne crée pas beaucoup d'emplois.
Qui ne crée pas beaucoup d'emplois parce que les services sont très productifs. Mais elle exporte énormément de services et pour qu'elle puisse exporter encore plus ses services, donc qu'il y ait des échanges entre l'Union européenne et l'Inde, il faut, alléger les contraintes qui portent sur notamment les déplacements temporaires, par exemple. C'est pas forcément des déplacements permanents, mais des déplacements temporaires de personnes. Et pour revenir sur votre question sur le protectionnisme de l'Inde, effectivement, ça c'est très étonnant parce qu'elle a toujours en tout cas le gouvernement Modi qui est là depuis 2014, donc a toujours eu un positionnement par rapport au commerce extérieur assez changeant. À partir de 2012, donc un peu avant l'élection de Modi, on a vu que les échanges, enfin le commerce extérieur de l'Inde se rétractait. C'est-à-dire, elle est changée de moins en moins. Et ça, c'est revenu en force à partir de 2020, 2021, 2022. Je pense au moment où tout le monde a pris conscience, parce qu'en fait, on a l'impression que cet accord, il est là en réaction avec les turpitudes américaines. Mais en fait, ce qui motive de long terme, je pense aussi, ces accords, c'est la prise de conscience brutale en 2020 d'une dépendance à la Chine qui est très forte en Europe, 23% des importations viennent de Chine, et très forte en Inde, 18%.
Donc là-dessus, vous n'êtes pas totalement d'accord, si j'entends bien. Vous donnez plus ou moins d'importance aux États-Unis dans cette affaire, qui rapprocherait ou pas l'Inde et l'Europe. C'est vrai, Christophe Jaffrelot, que ça fait plus de 20 ans que l'Union européenne et l'Inde discutent de cet accord.
Ah oui, ils ont commencé en 2007, donc effectivement, ça fait presque 20 ans. Mais je pense que la vraie dynamique, elle est triangulaire, effectivement, et qu'on ne comprend pas comment l'Europe gère l'Inde, plutôt comment l'Inde gère l'Europe, si on ne comprend pas comment est-ce que la relation Inde-États-Unis, qui est beaucoup plus structurante, la relation Inde-États-Unis importe infiniment plus à l'Inde que la relation Inde-Europe. Et donc, en fonction de ce qui se passe avec les États-Unis, on va avoir des attitudes qui vont être adaptables du côté européen. Juste un mot sur la question que vous posez sur le brain drain.
Parce que sur le quoi?
Le brain drain, vous avez dit.
Le brain drain, je n'ai pas dit le
si,
brain drain.
Si, vous avez dit l'exportation de compétences.
Ah, pardon. Ah oui, la fuite des cerveaux, c'est ça?
La fuite des cerveaux, exactement, si vous préférez rester français. Non, c'est très important parce qu'effectivement, on a vu des millions d'Indiens partir aux États-Unis. Il y a 5 millions d'Indiens aux États-Unis aujourd'hui. Et évidemment, ce sont des gens hyper qualifiés, qui sont vraiment dans l'élite américaine. Pourquoi est-ce que le gouvernement indien ne fait rien pour les retenir, littéralement? Parce qu'il voit dans cette diaspora un levier diplomatique ou paradiplomatique. Et ça, c'est une des questions qu'en Europe, il faut qu'on se pose nous-mêmes. Aux États-Unis, on se la pose de plus en plus. En Grande-Bretagne, on se la pose aussi. Comment est-ce qu'une diaspora peut s'intégrer ou rester fidèle à sa patrie d'origine et influencer et la société et la politique? Et quand on voit être construit à Marne-la-Vallée, à côté de Disneyland, le plus grand temple hindou d'Europe, on doit connecter les dots, hein, les points qui vont de la façon dont on laisse partir les Indiens à la façon dont on cherche à utiliser une diaspora.
On va refaire alors une série sur les diasporas dans Culture Monde, c'est intéressant, on en avait fait une l'année dernière et en effet l'Inde n'avait pas fait partie de cette série. Alors sur ce traité de libre-échange entre Union européenne et Inde, on a parlé de ce que l'accord couvre, en tout cas de ce qu'on en sait encore une fois, puisque ce traité n'est pas officiel et on en saura beaucoup plus plus lorsque les parlements s'en saisiront pour en débattre. Mais c'est intéressant aussi de regarder ce qu'il ne couvre pas a priori. Les produits agricoles, disiez-vous, l'un et l'autre. À votre avis, qui avait le plus à perdre, ou peut-être plutôt qui a manifesté le plus d'opposition? Les agriculteurs européens déjà vent debout pour des raisons que l'on connaît contre l'accord avec le Mercosur dont on parlait hier, ou les agriculteurs indiens dont on se rappelle les très grandes mobilisations contre des lois qui devaient libéraliser le commerce des produits agricoles, supprimer les marchés régulés par l'État. Comment comprendre, Catherine Brosse, que les produits agricoles ne fassent pas partie de l'accord?
Alors, du côté européen, probablement les difficultés avec le Mercosur ont dû quand même refroidir les ambitions sur l'agriculture. Mais je pense aussi, surtout, du côté indien, puisque effectivement, l'agriculture, ça représente 40% de la main-d'œuvre en Inde. Donc, c'est un secteur qu'on ne peut pas ouvrir à tous les vents de la concurrence. D'autant plus qu'il est extrêmement régulé, c'est très administré. Il y a des prix administrés qui sont garantis aux agriculteurs indiens, avec des rachats par l'État. Et donc, c'est un secteur qui est organisé de telle manière qu'en fait, l'ouvrir à la concurrence, c'est risqué pour la sécurité alimentaire de l'Inde, premièrement, puisque les prix peuvent, à l'extérieur, être plus importants qu'à l'intérieur. Donc, en fait, les agriculteurs ont intérêt à vendre à l'extérieur. Et d'autre part, mettre aussi exposé, en tout cas, si ce n'est mettre en péril, du moins exposé, à peu près la moitié de la population active. Donc c'est absolument impossible. Et d'ailleurs, dans les premières discussions qu'il y avait eu avec les États-Unis, entre les États-Unis et l'Inde, ça avait achoppé l'année dernière, ça avait achoppé sur l'agriculture. C'est-à-dire les Indiens ne voulaient pas ouvrir le secteur agricole là où les Américains cherchaient à accéder à ce secteur.
Donc les produits agricoles exclus.
Ce week-end, justement, Trump leur a tordu le bras et les paysans indiens sont dans la rue depuis...
Là.
Depuis avant-hier.
Contre cet accord de libre-échange signé avec les États-Unis le 2 février.
Dans l'accord, le pré-accord indo-américain, un premier paragraphe qui dit « Le marché agricole indien sera ouvert aux produits américains » et la liste est très longue.
Mais comment c'est possible que Narendra Modi l'ait accepté de Donald Trump alors que...
Le rapport de force, quand vous êtes soumis à des droits de 50%, comme Trump les avait imposés, et que vous n'avez pas... guerre de choix, guerre alternative. Alors, vous cédez en espérant rattraper le coup dans la négociation qui va s'ouvrir maintenant. Mais quand même, les paysans sont effectivement vent debout parce que ils ont énormément à perdre.
Vous étiez plus surpris aussi, Christophe Jaffrelot, dans un texte récent, de ce que d'autres sujets ne figurent pas dans l'accord, la propriété intellectuelle, les flux de données personnelles.
Les questions des flux de données personnelles, c'est très intéressant. En fait, longtemps, l'Europe a cru que l'Inde allait se doter de lois de protection des données personnelles qui permettraient de libéraliser les flux de données et notamment de permettre davantage de e-commerce, etc. Cette loi est restée entre 2016 et 2023 dans les cartons et finalement a été vidée de son sens. Et les Européens, je me souviens avoir eu de très longues discussions avec à Bruxelles les commissaires en charge de ces questions. Ils espéraient vraiment que Indiens et Européens allaient donner les normes mondiales et que la RGPD allait être la référence. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, vous avez un système de droit de protection des données personnelles qui est tellement à la merci de la volonté du pouvoir politique qu'on ne peut pas leur donner ce qu'on appelle l'adéquation. L'Union européenne a refusé de donner aux Indiens cette qualité. Et ça hypothèque quand même pas mal d'échanges.
Sur le volet investissement aussi, qui est toujours en négociation, Catherine Brosse, pourquoi est-ce que ce volet en suspens? Quel est l'enjeu, en particulier pour l'Inde, que d'accueillir ou pas des investissements directs sur son territoire de la part de l'Union européenne?
Alors, l'Inde veut accueillir des investissements directs étrangers. C'est même, en termes de flux, c'est même vers là que vont la plupart des investissements directs étrangers maintenant. En termes de stocks, c'est toujours assez petit. Hein, c'est pas comme la Chine. La Chine a eu des gros stocks d'IDE, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Là, les flux se dirigent vers l'Inde. Donc, l'Inde veut attirer ces investissements. Maintenant, je pense que les investisseurs, eux, veulent des garanties. Et des garanties institutionnelles sur la propriété intellectuelle, sur un certain nombre de garanties de type de droit, quoi. Et sur les IDE, ce qui est très important de rappeler, c'est qu'en fait, souvent, on s'imagine que les IDE vont vers l'industrie, ce qui est faux, en fait. Les IDE vont essentiellement en Inde vers les secteurs qui sont compétitifs à l'export et c'est les services, principalement, pas tellement les biens et les marchandises.
Et donc pas l'armement, Christophe Jaffrelot, parce que il faut qu'on bascule sur le côté politique aussi de cet accord, la question de l'armement, de savoir si l'Union européenne va faire de l'Inde un site de production, avec peut-être des transferts de technologies à la clé d'ailleurs.
Alors, c'est effectivement à resituer dans cette politique de Narendra Modi, qu'il a lancée dès 2014, du « Make in India ». L'idée était d'attirer les investissements étrangers de manière à enfin industrialiser l'Inde. Parce que si on a aujourd'hui 40% de paysans qui représentent environ 16% du PNB, on n'a pas beaucoup plus en part de PNB du côté du manufacturing, du côté de l'industrie. Avec même plutôt une érosion. La part de l'industrie a tendance plutôt à s'éroder. La part de la construction, comme on dit, du BTP, augmente. Et comme ils mettent un peu ensemble les deux, ça peut faire illusion. Mais il y a une véritable érosion du manufacturing et donc des produits manufacturés, de l'industrie manufacturière. Ça, c'est très problématique. Parce que on ne peut pas moderniser son agriculture, augmenter la productivité, si on n'a pas une industrie qui absorbe la main-d'œuvre, qui va quitter les villages pour aller dans les villes. Et c'était le grand pari de 2014. On va réussir à s'industrialiser en ayant des investissements étrangers.
Élection de Narendra Modi.
Narendra Modi 2014. Et dès 2014, il lance le Make in India. Et on en fait le bilan en 2024 et on voit que ça a été un échec, que véritablement on n'a pas eu les investissements dans l'industrie qui permettaient de rattraper le retard. Et aujourd'hui, effectivement, on se tourne vers d'autres secteurs dont l'armement. Alors avec cette idée que les Européens veulent se réarmer. 300 milliards d'euros en Allemagne investis dans l'industrie de l'armement. Enfin bon, les chiffres à chaque fois sont à prendre avec des pincettes, hein, mais enfin, il y a des effets d'annonce. On passe son temps à démonter des hyperboles politiciennes ces temps-ci, hein, parce que effectivement, à chaque fois, on regarde la réalité et puis c'est jamais à la hauteur des paroles. Mais quand même, est-ce qu'il n'y aura pas une partie de cette réindustrialisation militaire qui ne sera pas à aller faire par les Indiens? Les Français sont les premiers dans ce domaine, puisque d'ores et déjà, quand on vend des Rafales, quand on vend des Scorpènes, eh bien on a ce qu'on appelle des compensations en termes de transfert de technologie et de fabrication. Donc peut-être que là, il y aura effectivement une coïncidence entre le besoin européen de fabrication et la main-d'œuvre indienne.
Et voilà qui crée des débats intenses entre Européens. Les pays d'Europe de l'Est notamment sont les plus inquiets, surtout parce que l'Inde cultive toujours sa proximité avec la Russie. Est-ce que transférer des technologies à l'Inde, Catherine Brosse, est-ce que c'est les offrir à la Russie d'une certaine façon, sachant que Inde et Russie coproduisent certains armements comme les missiles BrahMos par exemple?
Alors, il faut voir une chose, c'est que adopter une technologie militaire, ça prend du temps. Et donc jusqu'à présent, pendant très longtemps, les Indiens se sont fournis chez les Russes. Et donc ils ont cette technologie militaire. Maintenant, ils ont de plus en plus diversifié auprès de l'Europe, effectivement, notamment de la France, auprès de l'Israël et des États-Unis. Et ça va nécessairement avec un peu de transfert technologique, parce qu'encore une fois, pour adopter ces équipements, et l'Inde s'arme aussi, elle dépense beaucoup en équipement militaire, elle est obligée d'avoir un minimum d'adopter ces technologies. Est-ce qu'il y aura du transfert vers la Russie? C'est des technologies qui fonctionnent en silo, en fait, qui se parlent pas tellement. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt une rediversification de la part de l'Inde de ses sources d'approvisionnement militaire, avec des technologies qui, elles, sont relativement étanches, pour le coup. Donc, est-ce que par la porte arrière, ça pourrait retourner vers la Russie? C'est assez peu probable, à mon
Alors,
sens.
Et même sans parler de transfert de technologie, on pourrait s'inquiéter de ce que, par exemple, des composants européens comme des semi-conducteurs se retrouvent intégrés à des armements coproduits par l'Inde et la Russie, donc ces missiles de croisière supersonique BrahMos, par exemple. C'est vrai que cette question de l'alliance qui persiste entre Russie et Inde, elle importe, raffine du pétrole russe, de nombreux médias russes sont accueillis, bien implantés en Inde. Est-ce que cette alliance, Christophe Jaffrelot, est-ce que les Européens en ont parlé avec Narendra Modi ou ils ont vaguement essayé du bout des lèvres et puis ils ont abandonné?
Alors, on peut pas parler d'alliance, on peut parler de partenariat. L'Inde ne se liera pas les mains en signant la moindre alliance, mais oui, il y a un partenariat très fort, très ancien, auquel l'Inde tient du fait de sa vision du monde. Lorsqu'on écoute Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères, la multipolarité mondiale, pour lui, est absolument indispensable. Et la Russie doit être un pôle fort pour multiplier justement les partenaires potentiels. La grande question pour les Européens, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut traiter avec le pays qui n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui n'a jamais voté contre la Russie dans les dernières années.
Elle s'abstient.
elle s'abstient. Elle s'abstient ou même parfois vote contre. Hein. C'est très étonnant maintenant, ils vont jusqu'à voter contre. Et ça, dans un contexte où l'Inde a aidé la Russie à financer sa guerre en Ukraine en lui achetant du pétrole pendant de très longues années, 65 milliards de dollars d'achats de pétrole par l'Inde auprès de la Russie, c'est quand même une somme coquette. Et non, on n'en a pas parlé. Le seul qui a osé dire quelque chose, c'est le ministre polonais des Affaires étrangères. Et ça n'est pas un hasard. Les Baltes, les Finlandais, les Polonais sont ceux qui, évidemment...
aux frontières de la Russie.
Voient la menace russe comme étant une telle priorité pour l'Europe qu'il n'est pas question de traiter, ou en tout cas de ne pas parler, de cette question. Et il a été renvoyé dans ses 22 mètres hein, par Jaishankar, mais en public, hein, très durement. Et le seul qui ait aidé l'Europe à régler le problème... c'est Trump. Parce que c'est Trump qui a forcé les Indiens à baisser leurs achats de pétrole russe au mois de décembre, au mois de janvier et probablement au mois de février. Donc on a une espèce de comportement de passager clandestin. Les Européens profitent de la façon dont Trump fait rendre gorge aux Indiens pour assécher les financements de Poutine. C'est la géopolitique mondiale et actuelle.
C'est vrai que le ministre des Affaires étrangères polonais, Radoslav Sikorski, s'était permis de féliciter l'Inde d'avoir réduit ses achats de pétrole à la Russie. Il a reçu un accueil glacial, donc il a changé de sujet.
Poland and India are both dynamic democracies.
La Pologne et l'Inde sont toutes deux des démocraties dynamiques. Nous avons beaucoup de points communs. Le niveau de nos échanges commerciaux n'est pas encore satisfaisant, mais nous y travaillons. Nous avons bien sûr discuté des problèmes urgents de notre voisinage, de ce voisinage-ci, ainsi que des affaires mondiales. Vous pouvez deviner quels étaient ces sujets. Je tiens à vous assurer que la Pologne et l'Inde sont des pays attachés au respect des principes du droit international. Nos deux pays condamnent la violation des frontières internationales, qu'elles soient le fait de chars ou de terroristes.
Quand Radoslav Sikorski parle de terroristes, il parle de terrorisme islamiste que l'Inde appelle terrorisme frontalier car elle accuse le Pakistan de l'encourager. Pourquoi les représentants européens, Christophe Jaffrelot, de Radoslav Sikorski jusqu'à Ursula von der Leyen, se croient obligés toujours de dire dans leur discours que l'Inde est la plus grande démocratie du monde, de flatter un Premier ministre dont on sait les discriminations et violences quotidiennes qu'il encourage sur les minorités, le rétrécissement des moyens d'action, des contre-pouvoirs y compris judiciaires, vous avez souvent eu l'occasion de venir en parler ici, mais aussi les possibles fraudes électorales. Enfin, pourquoi à chaque fois se croire obligé ? Je veux dire, ça fait 20 ans, je pense, qu'on dit qu'il y a un non-dit entre les deux partenaires, mais ça continue.
Ben, ça continue alors que effectivement, la dédémocratisation indienne est de plus en plus évidente. Dernier exemple en date, on est en train de toiletter les listes électorales et on purge littéralement les listes électorales d'électeurs musulmans en vue des prochains scrutins. C'est de notoriété publique. Non, l'Europe sait. Les Européens savent.
Ça fait 10 ans, pardon. Oui.
Les Européens savent, et d'ailleurs le Parlement européen a été la seule enceinte où des résolutions ont été votées, à l'occasion de la visite d'ailleurs de Narendra Modi, notamment pour le 14 juillet français en 2023. Hein. Donc c'est un déni qui permet de justifier ce rapprochement sans trahir nos valeurs. Mais qu'est-ce que l'on voit ? On voit l'Union européenne devenir de plus en plus transactionnelle elle aussi, réalpolitik. Et évidemment, c'est une sorte de trahison des valeurs qui n'est pas facile à admettre. Donc, mieux vaut prétendre que l'autre est encore une démocratie plutôt que d'admettre que l'on est en train de renier certains des principes sur lesquels l'Union européenne a été construite. L'Union européenne a été construite sur ses valeurs démocratiques et on a exclu, pénalisé ceux qui ne les respectaient pas. Aujourd'hui, Orban est soumis à des sanctions par Bruxelles pour non-respect des droits de l'homme. Mais on va traiter avec des pays qui, eux, ne les respectent pas.
Mais est-ce que l'Europe est de plus en plus transactionnelle ou de plus en plus à l'extrême droite ? Et dans son Parlement notamment, c'est-à-dire vous disiez dans un texte, par exemple, que pour l'extrême droite européenne, négocier avec Modi, c'est en quelque sorte rester en famille.
Effectivement, ce sont là les nouvelles donnes dont on va devoir tirer des leçons. Vous avez un transnationalisme d'extrême droite qui, effectivement, passe par Budapest, Delhi et maintenant aussi, bien sûr... Washington, et ça va sans doute se refléter dans les débats du Parlement européen où le centre de gravité a bougé vers la droite, effectivement.
Sauf qu'en Inde, toute remarque à ce sujet, comme pour la Russie, est prise comme une posture moralisatrice de toute façon, donc ça restait un non-dit. Catherine Brosse.
Oui, il faut voir aussi une autre chose, j'aimerais compléter, parce qu'en fait, les accords commerciaux, vous savez, c'est un peu comme le vieux dicton de Deng Xiaoping, quoi. Qu'importe que le chat soit blanc ou noir pourvu qu'il attrape des souris, c'est un peu l'idée. Et il faut voir qu'en fait, ces accords vont structurer le commerce international de long terme, de très long terme. D'accord, c'est vraiment l'idée, c'est que ça va rediriger des flux de commerce à 5, 10, 15 ans. Et même si effectivement on peut penser que le pouvoir politique en place n'a aucune raison de particulièrement changer à court terme, c'est quand même un horizon qui est très long terme en fait, ces accords commerciaux. Donc il faut aussi remettre un peu les choses en perspective, dans le sens où l'Union européenne a conclu un accord qui est un accord structurant de long terme et en tout cas d'un terme probablement plus long que la politique.
Un accord, un traité qui de toute façon devra être ratifié par les parlements avec tous les débats que cela va occasionner. Mais en Inde, puisqu'on essaye dans cette série de voir ces traités ou ces accords du côté de ceux qui signent avec l'Union européenne, est-ce qu'en Inde, Christophe Jaffrelot, l'opposition à Narendra Modi au Parlement, qui exige par exemple des détails sur l'accord signé début février là avec Donald Trump, est-ce qu'elle fait pareil pour cet accord avec l'Union européenne?
Beaucoup moins. L'accord avec Trump est en train de complètement marginaliser l'accord avec l'Europe. Il est tellement plus important. Le commerce entre l'Inde et l'Union européenne est quand même de moindre importance. Avec les États-Unis, l'Inde a l'un de ses rares excédents commerciaux qui doit être de l'ordre de 40 milliards de dollars. C'est vraiment pas négligeable. Donc là, le risque, c'est qu'ils perdent cet avantage. Ils perdent aussi cette compétitivité, ou plutôt cette compétition avec les paysans et agriculteurs américains. Enfin, il y a quantité d'autres raisons pour que les États-Unis prennent le devant, prennent le pas.
Catherine Brosse, est-ce que déjà vous êtes d'accord? Et surtout, qu'est-ce qu'on sait de ce texte? Enfin, c'est même pas un texte, en fait. On dit cet accord signé avec les États-Unis, mais on n'en sait pas grand-chose non plus.
Alors, les États-Unis ont toujours été le premier client de l'Inde. Mais l'Union européenne n'est pas très loin derrière, en fait. Donc, il ne faut pas non plus exagérer le rôle des États-Unis. Par ailleurs, cet accord, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est des annonces qui sont faites. Certaines ont été confirmées par Delhi, avec des pincettes. C'est un accord intermédiaire qui est en négociation, et nul doute que les négociations seront âpres, en particulier sur l'agriculture. Donc, il est urgent de ne pas se presser, quoi, pour les conclusions sur les États-Unis. Et je pense qu'en fait, il y a aussi, de la part de l'Inde, la perception que... ils ont été giflés une fois, et la boîte à baffes, ça suffit, si je puis me permettre. Donc, ils vont y aller prudemment, négocier, et je pense que ça va pas du tout être une partie facile pour les États-Unis de renégocier, parce qu'en fait, c'est trop versatile. Et justement, ce qu'ils ont voulu démontrer dans cet accord avec l'Union européenne, c'est que ils étaient capables de s'ancrer dans le long terme, alors que aux États-Unis, c'est la valse, quoi. 25, 50, 18, les chiffres. En un an, on a eu 4 chiffres différents de droits de douane. C'est invraisemblable. Pour le monde économique, c'est complètement perturbant, quoi. Donc, cet accord avec, effectivement, les États-Unis, mais essaye d'écarter un peu cet accord de très long terme avec l'Inde et l'Union européenne. Mais l'accord avec les États-Unis, ils y vont prudemment. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en voir les détails.
Donc, on n'a pas fini d'en voir les détails et il reste beaucoup de marge de négociation. On dit par exemple que l'Inde pourrait se voir signifier par les États-Unis qu'il serait bon qu'elle commence à acheter du pétrole à un Venezuela qui est aujourd'hui sous tutelle des États-Unis, donc plutôt que d'acheter du pétrole à la Russie. Donc, plein de choses encore à négocier, à discuter. C'est aussi le cas toujours de ce traité avec l'Union européenne. On n'en a pas parlé et pour cause, ça n'est pas très présent dans les discussions. C'est la dimension environnementale dont Sylvia Malimbaume vient nous parler juste après la bande-annonce du film qui veut dire « Mon cœur est déjà pris » en indien 99.
Bitch, सितम तुझ पे मिटेंगे हम तेरी कसम
Mon cœur est déjà pris, bande-annonce du film du même nom de la fin des années 90, une comédie romantique indienne où l'action se partageait entre l'Inde et l'Italie. Mon cœur est déjà pris, la romance stratégique en l'occurrence entre l'Inde et l'Union Européenne. C'est le deuxième épisode de notre série L'Europe sort le grand jeu. Aujourd'hui donc avec l'Inde et avec pas mal de points sensibles de ce traité annoncé le 27 janvier, en particulier le volet environnemental.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Dans tous ces accords commerciaux, l'Europe impose aujourd'hui son mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est un instrument réglementaire qui soumet les produits importés dans l'Union à une tarification de carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens qui fabriquent ces mêmes produits. L'Inde dénonce un protectionnisme déguisé et injuste puisque Narendra Modi pense que son pays est un modèle en la matière.
Mes amis, nous savons tous que l'Inde, comme l'ensemble des pays du Sud global, a très peu contribué au changement climatique, mais que ses effets négatifs y sont bien plus importants. Malgré le manque de ressources, ces pays restent engagés en faveur de l'action climatique. Pour répondre aux aspirations du Sud global, le financement climatique et le transfert de technologies sont absolument essentiels.
Le Premier ministre indien à la COP 28 de Dubaï, il ne s'était pas rendu l'an dernier à la COP 30 de Belém. Bonjour Sylvia Malimbaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, où vous êtes responsable de la recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud. L'Inde représente 17% de la population mondiale, 4% des émissions de gaz à effet de serre seulement. C'est un mantra que Narendra Modi répète à chaque négociation.
Oui, alors c'est vrai que Narendra Modi insiste sur le fait que la responsabilité historique des émissions de carbone est plutôt du côté des pays riches. Dans cette même démonstration, il insiste aussi pour que ce soit les pays les plus riches qui financent, qui octroient des financements climatiques aux pays en développement. Pour autant, l'Inde reste aujourd'hui un pollueur important, c'est le troisième pays pollueur, avec d'ores et déjà des impacts très importants localement. On voit notamment aujourd'hui que l'Inde fait partie des pays les plus vulnérables aujourd'hui au changement climatique, avec des impacts aussi sur la santé des populations. En moyenne, aujourd'hui, la pollution atmosphérique, par exemple en Inde, elle coûte 5,3 années d'espérance de vie aux Indiens. Donc je dirais les effets du changement climatique sont déjà là et on voit bien que la nécessité aussi pour Narendra Modi de mettre en place un certain nombre de mesures en ce sens.
Est-ce que l'Europe a, pendant ces négociations de ce traité, cherché à imposer sa vision de ce que doit être une transition énergétique bien menée dans un pays, l'Inde, où près des trois quarts de l'électricité proviennent encore du charbon ?
Alors il y a effectivement eu déjà, alors même avant ces négociations, des discussions entre Européens et Indiens, en particulier cette question du charbon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'impératif, donc la priorité de développement économique pour l'Inde, elle a quand même tendance, malgré, je le disais, la question environnementale qui est pressante, de prendre un peu le dessus. Et aujourd'hui, la priorité pour les Indiens, c'est bien le développement économique et ça a un coût, et notamment le fait qu'il y ait encore effectivement beaucoup de charbon, notamment pour la production d'électricité indienne. Et donc, on voit par exemple lors de la COP26 de Glasgow un certain nombre de pays, notamment les Européens, voulaient proposer une sortie du charbon, alors que les Indiens n'ont pas parlé de stopper le charbon dans les accords, mais ont préféré avoir un vocabulaire de sortie progressive du charbon. Donc on n'est pas exactement sur la même ligne quand il s'agit d'adopter un vocabulaire commun dans ces négociations climatiques.
Le traité là, du 27 janvier, il n'a pas été rendu public. Quel problème ça pose vraiment en matière de transparence, c'est une évidence, mais justement pour avancer sur ces questions climatiques, environnementales, qui sont un grand désaccord ancien qui structure donc depuis longtemps ce dialogue.
Bah, là encore, on voit que l'Inde refuse donc toutes les normes environnementales qui seraient trop contraignantes, et notamment, je le disais, contraignantes pour son développement économique, même si, encore une fois, elle reconnaît la nécessité d'une action climatique, y compris une action climatique commune. Alors, le gros sujet, ça a été effectivement ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, l'industrie, enfin, le marché européen est un marché européen pour l'industrie de l'acier et de l'aluminium indien. Concrètement, c'était entre 30 et 40% des exportations d'acier indien qui se retrouvent en Europe. Et c'est un acier qui n'est pas aujourd'hui réalisé, fabriqué dans les mêmes, en respectant les mêmes normes environnementales coûteuses auxquelles sont astreintes les industriels européens. Et donc, c'était une ligne rouge. C'est vrai que les Indiens ne voulaient pas entendre parler de ce mécanisme qui est donc considéré comme punitif, alors qu'au contraire, vu des Européens, il était important d'avoir un mécanisme considéré plutôt comme égalisateur pour avoir des conditions similaires côté industriel extra-européen et européen et ne pas pénaliser nos propres fabricants, nos propres producteurs d'acier.
Alors qui a gagné ce bras de fer ?
Alors c'est intéressant ce que vous le disiez, on n'a pas le contenu exact encore de l'accord.
Parce qu'il y a un problème pour toutes les ONG notamment qui s'intéressent à ces questions, pas seulement les ONG, tous les chercheurs, tous ceux qui voudraient que le débat soit nourri sur la façon dont l'Union européenne a intégré ces enjeux environnementaux et l'Inde aussi.
Alors, a priori, en tout cas, le mécanisme en tant que tel restera dans l'accord, donc il n'y a pas eu d'exemption, ni pour les Indiens d'ailleurs, ni pour d'autres géographies. Mais il semblerait qu'il y ait un certain nombre de mécanismes ad hoc d'accompagnement. Alors apparemment, les Européens proposeraient une forme de coopération technique, parce qu'il y a quand même tout un sujet, enfin beaucoup de sujets techniques. Comment on mesure ce carbone? Comment on s'entend sur un certain nombre de méthodologies?
Comment on décarbone l'acier?
Décarbone la production d'acier. Il y a encore, ça représente des investissements aujourd'hui très importants. Et d'ailleurs, ce qui serait prévu, c'est que les Européens ont proposé 500 millions d'euros sur 2 ans pour aider les Indiens dans ces efforts donc de décarbonation. Ça paraît beaucoup comme chiffre, mais en fait, c'est assez peu parce que les investissements nécessaires sont gigantesques. On parle plutôt de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc, il y a encore une marge importante. Et aujourd'hui, les industriels indiens ne sont pas prêts, en tout cas, n'ont pas encore réalisé ces investissements. Donc, il va probablement y avoir une coopération avec les Européens sur cette question, mais qui va prendre du temps.
Parce que sinon, les producteurs d'acier vont devoir baisser leur prix de vente pour rester compétitifs. Enfin, y a une question de viabilité aussi de cette industrie en Inde.
Alors, c'est une industrie qui est importante pour les Indiens. C'est à peu près 7% des exportations indiennes vers l'Europe. Et effectivement, on voit l'Inde a gagné des parts de marché au fil des années sur le marché européen. Le risque aujourd'hui, c'est tout simplement de perdre ce marché, puisque la taxe MACF, elle va représenter une part importante qui va venir gréver en fait les marges des industriels indiens. Donc il est probable qu'à court terme, ce marché ne soit plus rentable pour les industriels indiens.
Et dans l'acier, il est très difficile de reconquérir des parts de marché quand on les a perdues, paraît-il. Est-ce que pour conclure, Sylvia Malimbaum, l'Inde a, à votre connaissance, cherché à obtenir d'autres concessions, par exemple en termes de délai, si l'Europe a imposé des choses sur le volet environnemental, est-ce que l'Inde a obtenu des concessions?
A priori, il n'y a pas de concession, en tout cas sur le délai relatif à ce mécanisme carbone, puisqu'il est opérationnel depuis le 1er janvier 2026 en Europe, et les industriels indiens y sont soumis. Moi, je pense qu'il y a d'autres points qu'il faudra regarder avec attention. Quand on connaîtra, encore une fois, le contenu de ce fameux chapitre sur le commerce et le développement durable, donc qui fera partie de cet accord de libre-échange, notamment la question, donc les grands accords qui y sont mentionnés, a priori l'accord de Paris y est mentionné. Est-ce qu'il y aura, par exemple, un caractère contraignant sur le plan juridique pour le respect de l'accord de Paris? Ça fait partie des points qui, je pense, vont être intéressants à suivre.
Vous restez avec nous, Sylvia Malimbaum. Je voulais faire réagir aussi Catherine Brosse sur ces questions. Est-ce que, au-delà des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris à réduire les émissions de gaz à effet de serre, est-ce que l'Inde a l'intention de développer une véritable industrie verte avec tous les guillemets de rigueur, mais néanmoins développer ses propres panneaux solaires, par exemple? Et est-ce que cet accord, d'un point de vue commercial, vise aussi, quand on parlait tout à l'heure d'investissement, de transfert de technologie, est-ce que ça peut concerner aussi ces questions environnementales?
Alors là, moi, je pense qu'il faut faut regarder les choses dans la temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, le mécanisme, l'adoption du mécanisme d'ajustement dans l'accord est prévue d'être déployé, de faire l'objet de négociations techniques et d'être déployé de manière très progressive. Ce qui est logique parce qu'en fait, on change pas un mix énergétique dans moins de 10 ans minimum, quoi. Donc là, ils sont à fond sur le charbon, ils peuvent pas passer du jour au lendemain au nucléaire, ça c'est sûr. Ou autre chose d'ailleurs. Donc en fait, c'est une question de temporalité. Après, ce qu'il faut voir aussi dans ce mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est qu'en fait, les entreprises qui exportent vers le marché européen paye la différence entre la taxe carbone à l'intérieur de l'Union et ce qu'ils auraient déjà payé chez eux. Et donc, en fait, ce mécanisme de compensation, les Indiens disent que c'est des barrières douanières déguisées, les Européens disent non, c'est de la TVA. C'est l'équivalent d'une TVA. Et donc, en fait, ce mécanisme de compensation fait que ça peut tout à fait inciter les Indiens, effectivement, à développer une énergie beaucoup plus, en tout cas une industrie un peu plus propre. Deuxièmement, ils ont des besoins énergétiques qui sont extrêmement forts et qui sont pas fournis pour l'instant suffisamment. Et on sait très bien dans ces cas-là qu'il y a une forte incitation à adopter la dernière technologie qui est souvent beaucoup plus propre pour le delta dont ils ont besoin pour accroître leur capacité énergétique. Donc moi je serais pas si... Alors c'est sûr que l'Inde c'est extrêmement pollué, effectivement c'est question de santé, etc. Mais ce mécanisme peut-être sur lequel à mon avis l'Union européenne ne reviendra pas, il y aura des ajustements techniques, des négociations à terme, etc. peut avoir l'effet vertueux d'inciter l'industrie indienne à se verdir un peu.
Un tout petit mot, Sylvia Malimboum, à ce sujet, dans le domaine des villes que l'on dit propres, de la réduction des déchets, la recherche, l'innovation, l'Inde a des partenariats avec d'autres, par ailleurs, d'autres pays, d'autres groupes d'États.
Oui, et ce qui est très intéressant dans ce que disait Catherine, c'est qu'il y a aussi dans la coopération entre l'Inde et l'Union européenne aujourd'hui tout un volet sur la coopération en matière justement de technologie verte. C'est-à-dire que les Indiens cherchent aussi à faire venir des investissements et des technologies des Européens pour les aider justement dans cette transition énergétique.
Donc les parlementaires en sauront plus là encore quand ils auront à ratifier le texte, et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer hier au sujet de l'accord avec le Mercosur, mais il se trouve que cet accord en particulier a été élaboré de telle sorte que sa partie commerciale entrera en vigueur de façon automatique dès qu'un État l'aura fait ratifier par son Parlement, et apparemment c'est le Panama qui est déjà le plus avancé. Est-ce que l'accord avec l'Inde, Christophe Jaffrelot, sera lui aussi entériné quand un Parlement indien européen ou un des 27 Parlements nationaux des pays membres l'aura voté? En plus simple, quelles sont les prochaines étapes?
Les prochaines étapes, ce seront effectivement les parlements qui vont les énoncer. Alors, il y aura un débat au Parlement européen, ça ne fait aucun doute, notamment à cause de ces questions environnementales, aussi du fait des conditions de travail en Inde. En 2013, on avait fini par jeter l'éponge, disant « on n'y arrivera pas ». On ne pourra pas signer un accord. Un des sujets qui était quand même sur la table, c'était les droits des travailleurs en Inde et le dumping social que ça représentait. Bon, ce genre de débat va revenir. Mais je voudrais revenir sur le point que vous soulignez.
On arrive à la fin de cette émission.
D'accord.
Rapidement,
juste sur la question des panneaux solaires, parce que c'est un point d'entrée très intéressant dans le fait que l'Inde dépend énormément de la Chine aussi pour ça. Et pour moi, cet accord, il n'a de sens que si, premièrement, il permet vraiment de s'émanciper de la dépendance vis-à-vis de la Chine, et ni l'Europe ni l'Inde, pour l'instant, ne sont en mesure véritablement de remplacer ce grand fournisseur. Et deuxièmement, est-ce que ouvrir le marché en Inde est une condition suffisante? Non, nécessaire, pas suffisante. Où sont les consommateurs? Quand 800 millions d'Indiens vivent de l'aide alimentaire et que la classe moyenne fait moins de 10%, où sont les marchés? Beaucoup de fabricants français, européens, se retirent du marché indien, faute de clients. Un accord de commerce, c'est bien, mais il faut encore qu'il y ait des clients.
Merci beaucoup, Christophe Jaffrelot. L'Inde de Modi, votre livre est toujours disponible chez Fayard, ainsi que le livre que vous avez co-dirigé avec Delphine Alès sur l'Indo-Pacifique aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup, Catherine Brosse, professeure d'économie à l'Université de Tours et chercheuse au Léo. Et merci à vous, Sylvia Malimboum, chercheuse à l'IFRI. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous emmenez, Catherine, en Colombie, où les autorités peinent à enrayer le trafic de drogue.
Les saisies de cocaïne se multiplient, les destructions de laboratoires clandestins aussi, mais c'est une tâche de Sisyphe, un travail sans fin, tandis que les trafiquants emploient, eux, des techniques toujours plus sophistiquées. Près de 10 tonnes de cocaïne ont été saisies dans un narco-sous-marin pour une valeur de 440 millions de dollars, annonçait hier le journal télévisé colombien Noticias Caracol. Cette opération menée conjointement par la Colombie et les États-Unis, une semaine après la rencontre plutôt à Washington, entre le président Donald Trump et son homologue colombien Gustavo Petro, a également permis d'arrêter les 4 membres d'équipage de ce narco-sous-marin dans les eaux internationales, précise le quotidien El Universal. Par ailleurs, plus d'une tonne de cocaïne a été saisie dans les eaux colombiennes du Pacifique, indique le journal El Tiempo. La cargaison flottait à la surface, amarrée à une bouée, en attendant qu'un autre bateau récupère la drogue. Autant de techniques, de moyens de transport pour éviter d'être repéré par les autorités. J'en parlais déjà le 28 janvier dernier avec cette alerte d'Europol sur les moyens toujours plus inventifs des réseaux criminels pour acheminer la drogue en Europe notamment, où la consommation augmente, tout comme la production de cocaïne en Amérique latine, confirme El País, la BBC et The Economist. Que ce soit à Catatumbo, dans le nord de la Colombie, près de la frontière vénézuélienne, ou bien dans le sud du pays, autour du fleuve Putumayo, dont les narcotrafiquants se servent pour acheminer leurs marchandises vers l'équateur voisin, puis vers le reste du monde. La Colombie produit près de 70% de la cocaïne dans le monde et sa forêt dense est parsemée de taches d'un vert éclatant, signe distinctif des cultures de coca, décrit The Economist. Le magazine britannique et la BBC ont suivi des commandos de la jungle, une unité d'élite de la police antidrogue colombienne armée par les États-Unis et initialement entraînée par le SAS britannique lors de sa création en 1989, précise la BBC. La chaîne britannique a embarqué dans des hélicoptères Black Hawks qui vrombissent au-dessus de la jungle colombienne. Les feuilles de coca recouvrent aujourd'hui une superficie presque deux fois supérieure à celle du Grand Londres, indique la BBC. Lorsqu'ils atterrissent, ces commandos risquent leur vie. Impossible de rester plus de 10 à 15 minutes au sol. La BBC a assisté à la destruction d'un laboratoire clandestin où des feuilles de coca attendent d'être transformées en pâte, la matière première de la cocaïne. La récolte et les produits chimiques sont partis en fumée. Mission accomplie pour l'instant. Salut la BBC, mais le commandant Christian Cedano Diaz ne se fait guère d'illusions sur le travail accompli. Lorsque la BBC lui demande combien de temps les narcotrafiquants mettent à reconstruire un autre labo clandestin, la réponse du commandant colombien est sans appel.
En un día.
En une journée, les narcos n'ont qu'à changer d'emplacement, à se déplacer de quelques mètres. On a déjà vu ça. Parfois, lorsque nous revenons dans des zones d'opération, nous constatons que des structures ont été reconstruites à quelques mètres des labos qu'on vient de détruire seulement quelques jours auparavant, déplore le commandant Christian Cedano Diaz au micro de la BBC. Ce chef de l'unité antidrogue en Colombie se félicite néanmoins que les narcotrafiquants perdent de l'argent à chaque laboratoire détruit, mais ils ont toujours un train d'avance, ajoute The Economist. Et les paysans, les cultivateurs de coca en sont les victimes collatérales. Si vous brûlez tout ça maintenant, vous nous priverez de notre seul gagne-pain, affirme Esperanza, une mère de famille de 3 enfants qui ne reçoit aucune aide de l'État, raconte The Economist. Le président de gauche colombien, Gustavo Petro, a du mal à convaincre les agriculteurs d'arracher leurs plantations de coca. Une substitution impossible, même si des cartels, des groupes rebelles armés tels que l'ELN, qui se finance aussi par le trafic de drogue, font pression sur les paysans colombiens, explique The Economist. Un thème qui sera au cœur de la présidentielle de mai et juin prochain, alors qu'un enfant sur 10 en Colombie grandit dans un contexte de triple crise, alerte le quotidien colombien El Tiempo, conflits armés, migration forcée et changement climatique.
En Afrique de l'Ouest, Catherine, les drones transforment l'insurrection djihadiste.
Avec près de 70 frappes de drones menées par une branche d'Al-Qaïda au Burkina Faso et au Mali depuis 2023, indique la BBC. Tandis que les deux branches du groupe État islamique en ont mené une 20aine, principalement au Nigeria. La dernière attaque de drones a eu lieu fin janvier dans l'État de Borno contre une base militaire. Elle s'inscrit dans une longue série documentée par le quotidien nigérian Vanguard et la Deutsche Welle. Ces appareils disponibles dans le commerce sont relativement peu coûteux et ils servent réservent aux djihadistes pour des missions de reconnaissance et de surveillance aérienne, avec ensuite des attaques terrestres où ces drones sont piégés avec des explosifs, précise à la BBC Acled, une ONG qui recense les victimes de conflits dans le monde. Des techniques empruntées à la guerre en Ukraine, ajoute la BBC et Jeune Afrique, sous l'influence de combattants étrangers. Une escalade significative désormais au Sahel, si bien qu'au Mali, Assimi Goïta, le chef de la junte au pouvoir, veut encadrer l'usage des drones civils, rapporte le journal malien L'Essor, ainsi que Jeune Afrique, et ce, pour contrer le détournement des drones par les djihadistes.
Merci Catherine Dutu.